Ce matin, je vais enseigner sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est la mission du chrétien. Aujourd'hui, nous racontons beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. Et il y a une confusion dans le corps de Christ. Il y a une confusion dans le corps de Christ qu'on a l'impression que ça devient une concurrence d'église, une concurrence de nom, une concurrence de programme, une concurrence de j'ai plus de membres, une concurrence de on fait 10 cultes par jour ou ceci, cela. Mais en fait, nous découvrons dans la Bible que Jésus n'est même pas venu nous dire de faire des cultes. Il n'est pas venu nous dire de nous rassembler pour chanter. Il n'est pas venu nous dire d'avoir un puissant groupe musical. Il n'est pas venu nous dire de pouvoir rassembler 100 000 personnes ou 200 000 personnes. Jésus n'est jamais venu nous dire « Je m'en vais, mais vous, ayez l'audace de rassembler 400, 5 000, 10 000, 300 personnes. » Non. Nous allons voir ce matin que Jésus nous a laissé une mission. Il nous a laissé une mission très claire. Et c'est cette mission-là qui doit être le but de chaque chrétien. Que tu sois pasteur, que tu sois simplement un chrétien, que cette mission soit dans ton esprit, dans ton cœur. Et à partir du moment où cette mission est dans ton esprit, dans ton cœur, et que ça fait partie de ta volonté, rien ne peut t'arracher à la voix de Christ. Rien ne peut t'arracher de Christ, parce que tu te rends compte, tu te dis que je suis moi-même cette personne-là qui doit accomplir la mission que Jésus a donnée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Église devient un clan de personnes, une communauté de personnes qui, en fait, veulent se réunir pour manger ensemble, pour boire ensemble, pour danser ensemble, pour écouter, bien sûr, la parole de Dieu avec un pasteur, avec des évangélistes, avec des apôtres, avec tout ce qu'il faut. Mais chaque chrétien est en train d'oublier qu'il est il a une mission. C'est-à-dire que la mission que nous avons, nous croyons que c'est seulement la mission du pasteur. Nous croyons que c'est simplement la mission de l'évangéliste. Nous croyons que c'est simplement la mission de l'apôtre. Donc du coup, les chrétiens sont chez eux. Ils ne prient pas assez. Ils ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu. Et surtout, ils ne vont pas évangéliser pour sauver des âmes. Alors que la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de sauver les âmes. Nous allons lire la parole de Dieu tout à l'heure. Préparez votre Bible dans Marc chapitre 16. Jésus est venu sur la terre. Il a accompli une mission sur cette terre. Il a vécu parmi nous en tant que Dieu manifesté en chair. Il a connu la souffrance. Il a connu les épreuves. Lui-même passait sa vie dans la prière. Il a été tenté par Satan. Après un jeûne de 40 jours, il a remporté la victoire. Il est passé par le baptême. Il a fait tout ce qu'un homme doit faire sur cette terre, sauf commettre le péché. Et la Bible va nous dire que Jésus va mourir. Mais il ne meurt pas parce que il faut simplement qu'il meure. Mais sa mort était en fait quelque chose qui était prévu par Dieu pour pouvoir sauver l'humanité. La mort de Jésus était la conclusion de son ministère. Jésus devait mourir, mais ne pas rester dans la mort. Mourir et être ressuscité. Et après sa résurrection, tous ceux qui l'acceptent ont automatiquement la vie éternelle. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il va nous donner une mission qui est celle d'aller annoncer à toute personne qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. C'est là la mission du chrétien. Aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien, par jour, tu parles de Dieu à combien de personnes? Certains vont dire, oh, ça fait plus d'un an, je n'ai pas parlé de Dieu à quelqu'un. Si tu demandes à un chrétien, est-ce que tu as ramené au moins une seule personne à accepter le Seigneur dans toute ta vie chrétienne? Certaines personnes vont vous dire non, moi je suis devenu chrétien, je suis allé à l'église, je chante, je danse, je prie, mais voilà. Alors que c'est ce qui doit nous remplir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est on a combien de personnes à l'église? On est au nombre de combien? Bon, combien de personnes vont cotiser? Mais combien de personnes vont faire les offrandes? Bon, combien de personnes vont faire ceci ou cela? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui retient l'attention des chrétiens. Alors que nous avons beaucoup de païens, beaucoup de personnes autour de nous qui sont en train de mourir dans leurs péchés et qui attendent tout simplement que nous allions leur présenter ce que c'est que la bonne nouvelle. Lorsque j'ai regardé dans la Bible, dans les Actes des apôtres, j'ai découvert que la Bible dit dans Actes chapitre 4 et chapitre 5, j'ai vu qu'en fait, les chrétiens étaient rassemblés. La Bible dit qu'ils étaient une seule chair. Ils étaient une seule âme. Personne ne disait qu'un bien ne l'appartenait. Ils mangeaient ensemble. Ils dormaient ensemble. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Mais Dieu a fait quoi? Il va permettre qu'il y ait quoi? La persécution. Le Seigneur va permettre qu'il y ait la persécution. Et regardez ce que la persécution va faire à l'église. La persécution va venir faire de sorte que les chrétiens vont être obligés de se disperser. Ils vont se disperser dans le monde. Et celui qui allait en Asie va aller prêcher en Asie. Celui qui allait en Europe va aller prêcher en Europe. Celui qui allait en Afrique va aller prêcher en Afrique. Mais ils ont été obligés de se disperser. Dieu a permis cela exprès pour que chacun puisse annoncer la bonne nouvelle. Parce que la mission que le Seigneur les a donnée n'était pas de se réunir, de manger, de partager leur bien ensemble. Non, ça devenait une communauté dans laquelle les autres personnes n'arrivaient pas à rentrer. Alors que le Seigneur dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est lorsque tu iras annoncer la bonne nouvelle que tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. C'est lorsque tu iras vers un malade pour lui dire que le pouvoir de la guérison se trouve dans le nom de Jésus, que tu verras ce pouvoir de la guérison se manifester dans la vie de ce malade afin qu'il puisse rendre témoignage. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin, qu'attendez-vous pour aller annoncer la bonne nouvelle? Nous nous attendons souvent, oh, un frère, celui-là n'est pas venu aujourd'hui. Une sœur, oh, elle est en train de quitter la foi. Oh, l'autre, il ne veut pas faire ceci. Le Seigneur dit, l'évangile n'est plus pour ceux qui ont été sauvés déjà. L'évangile est pour ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Ceux qui ont été sauvés déjà ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu la lumière. Ils seront jugés par rapport à leur comportement envers Dieu. On n'a plus rien à faire avec eux. S'ils viennent à l'église, le pasteur va les éduquer à marcher spirituellement avec Dieu pour hériter le royaume des cieux. Mais ils ont été déjà sauvés. Ceux pour lesquels nous devons nous inquiéter et ceux pour lesquels nous devons jeûner, ceux pour lesquels nous devons ne plus dormir et aller chercher à leur parler, c'est ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce que nous avons connue. Nous rassemblons des gens dans l'église. Deux fois, ça devient des communautés. Et le monde est là, il nous regarde, il croit que c'est une secte, il croit que c'est un groupe de personnes qui ont leur manière de marcher, qui ont leur manière de vivre. Deux fois, le monde a envie de rentrer parmi nous pour découvrir ce que nous avons. Mais nous-mêmes, nous avons nos portes fermées. Parce que nous n'allons pas vers eux pour leur dire ce que nous avons. Nous pouvons aller vers eux. Ils peuvent nous repousser. Ils peuvent nous rejeter. Mais au moins nous sommes allés vers eux. Amen. Le Seigneur dit à Ézéchiel, si je te dis que le méchant doit mourir et que tu ne lui dis pas et que le méchant meurt, je te redemanderai son sang. Mais il dit aussi, si tu lui as dit et qu'il n'a pas écouté ce que tu as dit, et qu'il meurt, son sang retombera sur lui. Donc toi, va annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur veut que par jour, tu puisses dire à quelqu'un au moins que Jésus l'aime. Il veut que par jour, tu puisses dire au moins à un malade que Jésus a le pouvoir de le guérir. Je ne te dis pas d'aller dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Le monde entier sait déjà que Dieu existe, même si certains ne croient pas. Tu vas aller lui dire que Dieu l'aime. Il va dire oui, mais si Dieu m'aime, pourquoi il y a ceci ou cela? Va dire que Jésus l'aime. Jésus est Dieu manifesté en chair. Le nom qui guérit, c'est Jésus. Le nom qui opère les miracles, c'est Jésus. C'est Jésus que nous devons prêcher. Parce que Dieu, il y a beaucoup de dieux. Et chacun croit à ses dieux. Mais Jésus est unique. Et Jésus est la manifestation du seul vrai Dieu. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, ça veut dire dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait ressuscités. Ils n'avaient pas cru qu'il l'avait ressuscité, vu ressusciter. Amen. Verset 15, s'il vous plaît. Puis il leur dit, c'est qui dit? C'est Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. J'aime le verset 20. qui dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimé, pourquoi je te prêche ce message ce matin? C'est parce que le Seigneur m'a convaincu que ce qui peut gagner ce monde, c'est la manifestation de sa puissance. Le monde est en train de courir après tout ce qui est puissance. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher des pouvoirs démoniaques et qui prennent la Bible et qui annoncent des paroles qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, qui vendent même des médicaments dans les églises en disant que c'est des choses qui sont bénies, qui viennent de Dieu. Tu fouilles leur vie. Ils ne prêchent pas l'Évangile. Ils n'ont pas la sanctification. Mais vous allez voir des foules de personnes les suivre parce qu'il y a des miracles. Il y a des gens qui vont s'associer à Satan pour avoir des pouvoirs, pour attirer la foule, juste pour se faire de l'argent, les miracles. Alors que celui qui détient la puissance des puissances, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a été ressuscité, dans le passage que nous voulons de lire, la Bible dit que ses disciples ne croyaient même pas qu'il était ressuscité. Ils le croyaient encore dans le tombeau. Ils croyaient encore qu'il allait rester et pourrir dans le tombeau. Alors que ce Jésus lui-même les avait dit, je ressusciterai le troisième jour. Mais ils n'avaient pas encore la connaissance de la chose. C'est-à-dire que cette résurrection a eu lieu, mais ils n'y croyaient pas. Les femmes l'ont vu, elles ont annoncé, ils n'ont pas cru. D'autres encore l'ont vu sur le chemin, ils sont venus le dire, mais ils n'ont pas cru. Jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne les apparaître en public et leur reprocher leur incrédulité. Vous voyez, je retire une leçon là. La chose qui va m'empêcher d'aller annoncer Jésus, c'est l'incrédulité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, en fait, qu'ils ont accepté Jésus, mais ils sont encore incrédules. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont été baptisés. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont accepté Jésus. Ils prient en langue. Mais ils sont encore possédés d'un esprit d'incrédulité. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui va t'empêcher d'aller dire à quelqu'un que Jésus est mort et ressuscité pour sa vie, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que toi, tu as accepté Jésus, montrer que tu as peur d'aller dire que Jésus est ressuscité. Quelque part, il y a une sorte d'incrédulité qui est là. Tu dis, bon, je l'ai bien accepté, il est bien dans ma vie, mais est-ce que si je le dis à l'autre, est-ce que c'est réellement ça? Ça dit que tu te poses tellement de questions que tu n'as pas envie de t'exposer. Bien-aimé, je vous parle à vous et je me parle à moi. Je parle à tous ceux qui m'écoutent et je me parle aussi à moi. Qu'est-ce qui m'empêche de dire au chauffeur de bus que Jésus est vivant? Qu'est-ce qui m'empêche de dire au chauffeur de taxi que Jésus est vivant? Qu'est-ce qui m'empêche de dire à la caissière qui est en train de compter mes jetons que Jésus est vivant? Qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter le malade dans la rue pour lui dire, oh, lève-toi, Jésus est vivant? C'est mon incrédulité. Je ne crois pas. Je crois une chose. J'ai accepté Jésus, mon église est belle. J'ai accepté Jésus, demain on fera la fête, tel mariage, tel baptême, tel ceci. J'ai accepté Jésus, le jour viendra, c'est sûr qu'au moins je l'ai accepté. Mon incrédulité m'empêche d'obéir à la mission que Jésus m'a donnée. La Bible, il leur reprocha leur incrédulité. L'incrédulité qui est venue dans leur cœur, pour ne pas qu'ils croient que celui qui a marché sur les eaux est ressuscité. Pour ne pas qu'ils croient que celui qui a ouvert les yeux de Bartimée est ressuscité. Ils ont oublié que celui-là même avait ressuscité aussi Lazare. Et que celui qui a ressuscité Lazare était capable de se ressusciter lui-même. Donc l'incrédulité les a envahis et dit non, nous n'allons pas croire en ça. Parce que si nous croyons en ça, nous serons obligés d'aller l'annoncer aux gens. Et aller annoncer aux gens, si ce n'est pas vrai, on aura des problèmes. Oh my God. Dieu dans le ciel nous regarde. Il dit, mais où sont les chrétiens? Il n'y en a presque plus. Il y a les faiseurs de fêtes, des porteurs de beaux vêtements, des prêcheurs de prospérité, de miracles. Soyons riches sur la terre. On ne prêche que ça de sorte qu'on a l'impression que c'est la terre qui va devenir notre paradis. Si tu as Jésus, tu dois avoir une grosse voiture. Si tu as Jésus, tu dois avoir une grosse maison. Et alors, c'est parce qu'ils sont tellement remplis de pauvreté qu'ils prêchent ça. On n'a pas besoin de prêcher même ça tous les matins, tous les soirs. Dieu est rempli de miracles. Il est rempli de gloire, il est rempli de richesses. On doit expliquer aux gens de sortir de la pauvreté, de sortir de la misère. Tant qu'ils vivent sur la terre, il faut qu'ils manifestent la gloire de Dieu. C'est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui doit être notre évangile. C'est quelque chose qui doit accompagner l'évangile. Tu n'as pas encore sorti un poisson de l'eau. Tu es en train d'enlever ses écailles. Tu es en train de même déjà de préparer la sauce, de voir comment il va cuire. Il est encore dans l'eau. Des personnes sont dans l'église et elles ne sont pas converties. Mais on ne fait que leur dire que il faut qu'ils soient riches dans leur péché. De sorte que quand les païens même les voient, les païens ne voient plus Jésus dans leur vie. Les païens vont s'approcher de quelqu'un et vont lui demander, explique-moi comment tu as fait pour acheter ta voiture. Si la personne lui dit, je suis allé enterrer un mort au cimetière, et le païen va le suivre. Mais si la personne a réellement Jésus, et puis dit non, c'est mon Jésus de Nazareth qui m'a sorti de la misère, de la pauvreté, et qui est capable de le faire pour toi, il le fera. Il y a des gens qui ont habité dans un quartier, aucun de leurs voisins n'a entendu parler de Jésus. On entend des prêcher ici, il y a des gens qui passent, qui nous regardent. Souvent même, certains peuvent avoir honte de trop chanter fort. Pour ne pas qu'on entende leur voix dans la rue. Comme s'il y a quelqu'un qui va enregistrer leur voix pour aller mettre à la télé. Ça arrive, hein? Ce que je vous dis, ça arrive. Hein? Ça dit que on est là, comme on est en plein centre-ville, on voit les gens passer, tu vois, non? Et puis, à chaque temps, on regarde un peu qui écoute. Ça peut arriver à tout un chacun de nous. Vous voyez? Parce que le diable veut créer en nous une peur. Il veut créer en nous quelque chose qui s'appelle incrédulité. Pour ne pas qu'on ait le courage de dire aux gens qu'on aime Jésus et que ce Jésus-là est le seul qui est capable de tout faire. Si Satan nous retire cette foi, il a gagné. Alors que c'est cette foi-là qui va nous amener jusqu'au bout. La Bible dit que les femmes croyaient que Jésus était dans le tombeau. Elles sont allées pour l'embaumer. Il n'était pas là. Les femmes sont allées annoncer aux disciples. Les disciples ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter. La Bible dit que Jésus va les apparaître. Quand il va les apparaître, oh, lisez bien votre Bible. Je n'ai pas vu où c'est écrit. Jésus leur dit, allez-y me construire de très belles églises. Allez-y me rassembler une très belle communauté. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez. La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que celui qui est mort pour nos péchés est aussi ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et il va le dire, celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Mais nous sommes obligés d'aller leur dire. Yes, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Je veux te dire, ce n'est pas parce que les gens croient ou qu'ils ne croient pas que toi, tu ne dois pas aller dire. Tu t'en fous de ce que les gens vont faire.
S'ils croient, gloire à Dieu, ils sont destinés à être sauvés. S'ils ne croient pas, gloire à Dieu, mais toi tu as annoncé l'évangile. Oh, alléluia. Il dit, voici les miracles. Le mot miracle, c'est un mot qui est puissant, c'est un mot qui est fort. Quand on dit miracle, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui doit obligatoirement étonner la personne qui la voit. Il dit même pas, dans certains textes, on dit voici les signes. Dans certains textes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ici, c'est marqué, voici les miracles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu veux voir les miracles dans ta vie? Tu ne verras pas les miracles dans ta vie quand tu es assis dans ton église. Tu verras les miracles dans ta vie quand tu obéiras à ce que Jésus a dit. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui produit les miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront le bishop. Ce n'est pas le miracle qui accompagneront l'apôtre. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront le pasteur, l'évangéliste et tout ça. Il dit, ceux qui auront cru, les miracles qui accompagneront Héréna, et qui accompagneront Stéphane, qui accompagneront Christelle, qui accompagneront Badel, qui accompagneront Amrique, qui accompagneront Trésor, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ et sa résurrection. Il dit, en mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Qui a déjà vu un démon Qui a déjà vu un démon? Bon, ils sont spirituels. Mais tout ce qui est dans le physique commence dans le spirituel. Et Jésus dit, à mon nom, vous allez d'abord remporter la victoire dans le spirituel. Avant de commencer à voir les choses dans le physique, vous chasserez les démons. Souvent, nous ne comprenons pas que c'est les démons qui font tout. Tu as une sœur qui vient à l'église, demain tu ne la vois plus. C'est un démon qui retient sa vie. Tu priais beaucoup et à un moment tu vois que tu ne pries plus. C'est un démon qui vient t'empêcher de prier. Tu es joyeux et pour rien du tout comme ça, tu perds ta joie, tu commences à te décourager. C'est un démon qui vient te décourager. Mais Jésus dit, en mon nom, en ce nom qui est puissant, ils chasseront les démons, quel que soit le démon. Jésus n'a pas dit, ils chasseront quelques démons. Il n'a pas dit, ils chasseront une catégorie de démons. Il n'a pas dit, ils chasseront les démons les plus faibles. Il dit, ils chasseront les démons. Quel que soit le démon. Quel que soit le démon, au nom de Jésus, tu dois et tu peux le chasser. Tu n'es pas obligé d'être pasteur. Tu n'es pas obligé d'être évangéliste. Tu n'es pas obligé d'être bishop pour chasser un démon. Jésus dit, tu as cru, tu chasses les démons. Mais tu vas chasser les démons où? Dans l'église. On a tous accepté Jésus. Les démons sont restés au dehors. Donc tu vas chasser quel démon dans l'église? Tu ne peux pas chasser, pas parce que ton frère ou ta soeur t'a parlé mal à l'église qu'elle est possédée. Hein? Elle a Jésus, elle a le Saint-Esprit. C'est sa nature humaine qui parle. Amen. Donc, ce n'est pas un démon à chasser. C'est une affaire à régler entre toi et sa soeur pour dire, oui, ma soeur, tu m'as parlé mal. Excuse-moi, prions ensemble. Ça, ce n'est pas une affaire de démons. Les démons sont dehors, ils ne sont pas dans l'église. Il dit, ils chasseront les démons. C'est quand tu iras vers la personne qui est malade, tu vas dire, esprit de maladie qui retient la vie de cette personne, sort au nom de Jésus. Tu vas voir un démon sortir. Quand tu vas voir quelqu'un qui est dans la misère, la pauvreté, esprit de misère, de pauvreté, libère sa vie. Au nom de Jésus, tu vas voir la personne être libérée. Tu vas voir quelqu'un qui attend de mourir parce qu'il ne fait que des cauchemars. Esprit de ceci, sort et ça s'en va. En mon nom, ils chasseront les démons. Beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, attendent les démons dans l'église. Ils attendent, mais j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est plus que la sorcellerie. On dit qu'on a fait église. On est en train d'adorer Dieu. L'église est faite pour être adorée Dieu. L'église, c'est les chrétiens rassemblés pour glorifier Dieu, adorer Dieu. Chanter des louanges, chanter Alléluia, prendre la Sainte Seine, glorifier Dieu et puis voir la gloire de Dieu parmi nous. L'église n'est pas faite pour chasser les démons. Quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, c'est normal qu'on fasse leur délivrance. Mais si on continue chaque dimanche à faire la délivrance de ceux qui sont convertis depuis 1900 Toé, chaque dimanche, c'est la même personne, on chasse son démon. 1900 Toé. C'est quelle église, ça? On dirait que l'église est devenue un lieu de spectacle, de chassage de démons. Alors que les démons sont dehors. De sorte que même, il y a des chrétiens même qui se préparent maintenant le matin, en venant, ils portent deux pantalons, trois pantalons, ils se préparent à leur propre délivrance. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Je m'en vais ce matin, on ne sait jamais. Hein. Comme le bishop l'est rempli de l'onction, peut-être qu'encore il y a un démon qui va se manifester. Toi, tu es converti depuis 1900, mais il y a toujours un démon que je chasse chaque dimanche matin. Donc, on n'arrive même plus à savoir, parmi les manifestations, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est le démon? Le Seigneur a dit, je vous donne le discernement, mais même le discernement lui-même n'arrive plus à contrôler la chose. Le discernement n'arrive plus à contrôler certaines choses. Des fois, tu vois un frère ou une soeur qui est là, tu as envie de dire, esprit malin, sort. En même temps, tu dis, gloire à Dieu et merci pour ta présence. Toi-même, tu es confondu. Pourtant, tu as discernement. Donc, il y a des gens qu'il faut espérer maintenant. Comme ils aiment le chassage des démons, au lieu d'aller chasser les démons au dehors, vous savez ce qu'ils font? Ils vont chercher les démons au dehors pour les ramener à l'église pour qu'on les chasse. Je ne sais pas si monsieur me comprend. Au lieu de venir vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire quoi? Bien-aimés, ils vont aller au dehors pour provoquer les démons, pour les entasser, pour dire, suivez-moi dimanche matin, on va aller vous chasser. Donc dimanche, il vient. Il a une tonne de démons, on chasse. Demain, il vient encore avec une tonne de démons, on les chasse. Après, il vient avec une tonne de démons, on les chasse. Alors que lui, il ne doit pas être possédé. Lui, il doit aller les chasser là-bas et puis revenir à la sainteté ici. Jésus dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Hein? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a le parler en langue. Il y a prophétiser. Il a donné des oracles qui s'accomplissent. Et puis, il a changé aussi des langages. Parler de nouvelles langues. Je vais vous donner le réma qui se cache là-dedans. Parler de nouvelles langues, c'est avoir désormais le langage de la foi. Parler de nouvelles langues, c'est quand tu disais avant, « Oh, je suis malade », que tu arrêtes de dire, « Non, je suis malade, je suis guéri ». Parler de nouvelles langues, c'est quand tu es toujours en train de chanter, je suis un pauvre, et que tu arrêtes de dire ça, tu dis non, je suis riche. Parler de nouvelles langues, c'est quand ton langage change. Ton langage qui était négatif devient du positif. Parler de nouvelles langues, c'est ne plus parler comme tu étais avant d'avoir connu Christ, mais c'est parler comme une nouvelle personne. C'est-à-dire que quand on te voit, quelqu'un qui te voit dans la rue, qu'il puisse dire, mais est-ce que tu es la même personne? Tu étais tout le temps en train de pleurer et de pleurnicher. Comment ça se fait que tout le temps, maintenant, tu es heureux? C'est toi-même qui réconforte les autres. Je dirais que tu es en train de parler une nouvelle langue. Parler de nouvelles langues, ce n'est pas forcément venir s'arrêter à l'église. Deux fois, tu as l'impression que c'est un serpent qui les possède. Oh, bishop, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Je veux motiver moi-même et chacun de vous à aller saisir les âmes qui sont emprisonnés par Satan. Car c'est notre mission. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, si nous voulons chanter Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu, nous devons aller sans incrédulité annoncer à toute personne vers qui le Seigneur nous envoie
que Jésus est Seigneur et qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été ressuscité le troisième jour et qu'il nous a donné une puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte et que cette puissance nous anime pour opérer des miracles. Nous devons aller dire aux gens que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le problème que quelqu'un va nous présenter, nous devons prouver à cette personne que rien n'est impossible à Jésus. Nous gagnerons ainsi le monde. Nous gagnerons ainsi la ville dans laquelle nous sommes implantés. Et nous ne nous ennuierons pas dans nos églises à compter les membres. Nous ne nous ennuierons pas dans nos églises à savoir, un tel est venu aujourd'hui, un tel n'est pas venu hier. Ça ne nous regarde pas. Ce qui va nous prendre la tête, c'est comment faire pour que ceux qui n'ont pas accepté encore Jésus viennent l'accepter. Ma mission en tant que bishop, en tant qu'apôtre, n'est pas de comment je vais entretenir ceux qui ont déjà accepté Jésus. Ils ont déjà accepté Jésus, ils ont la Bible. On les enseigne. Ma mission est comment aller sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés, les arracher entre les mains du diable pour les ramener dans la maison de Dieu. C'est la mission de chaque chrétien. Nous devons prier pour ça. Chacun doit avoir sa part là-dedans. Chacun doit se demander comment je dois faire pour ramener les âmes. Est-ce que je dois distribuer des prospectus si j'ai pas la force de parler? Si peut-être que j'ai du mal à m'exprimer devant les gens, est-ce qu'au moins je dois être capable de donner au moins 2 ou 3 prospectus par jour? Est-ce que je ne dois pas par jour prier pour dire Seigneur, sauve au moins 2 âmes aujourd'hui? Déjà ma prière sera efficace. Est-ce que je dois tout simplement dire à quelqu'un, quel est ton problème? Et puis la personne me dit, ah, j'ai tel problème. Dit, mais viens, nous allons prier pour toi. Parce que j'ai un Jésus qui peut te délivrer. Ça, c'est l'évangélisation. On ne vous dit pas d'aller chez les gens pour leur prêcher toute la Bible. La Bible leur sera prêchée à l'église. Mais on dit d'aller leur dire que Jésus est capable de leur donner la solution pour le problème dans lequel ils sont. C'est ça l'évangélisation. Il dit, ils saisiront des serpents. Je ne vous ai pas dit d'aller ramasser des serpents dans la rue parce qu'ils vont vous piquer, vous allez mourir. Ils vont vous mordre, leur venin en vous, vous allez mourir. Jésus n'a jamais dit, allez attraper les serpents dans la rue qui vous mordent et puis jouer avec. Non, ils saisiront des serpents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit la force du mal qui est devant toi, tu as le pouvoir de la détruire, de l'attraper, de la briser. Le serpent représente le diable. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut aller dire aux gens. Je connais des chrétiens qui sont morts parce qu'on les a empoisonnés. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher des poisons, tout ça pour boire, pour dire oui, le Seigneur est là, il boit quelque chose. Il ne faut pas faire ça, tu vas mourir. Ce qu'il veut dire, c'est que quel que soit l'empoisonnement, le mal qu'on enverra contre toi parce que tu allais annoncer l'évangile, ce mal ne t'atteindra pas. Le breuvage mortel. Breuvage mortel, ce n'est pas seulement boire. Quand on dit que quelqu'un va s'abreuver, ça veut dire que sa soif va être, étanché. C'est-à-dire que c'est l'étanchéité de sa soif, en fait. Il a soif, il va s'abreuver. Le mouton va s'abreuver. C'est-à-dire que tu as soif, tellement soif que tu vas ramener quelque chose en toi qui va calmer cette soif. L'abreuvage. Et quel que soit ce que tu vas prendre comme abreuvage mortel, ça ne t'atteindra pas. Ça veut dire que le vaudou qui est celui qui est en train d'envoûter, ça ne t'atteindra pas. Le marabout qui est en train de faire des choses contre toi, ça ne t'atteindra pas. Tout ce qui sont en train de lancer contre ton âme ne t'atteindra pas. Toutes les prières diaboliques qu'on fait contre ta vie ne t'atteindra pas. Est-ce que tu sais pourquoi ça ne t'atteindra pas? Parce que tu serais en train d'annoncer l'évangile. Mais si tu es assis chez toi, en train de regarder ta télé, en train de te contenter avec une Bible fermée à côté de toi, en train de dire, qu'est-ce que je vais porter le dimanche pour prouver que je suis beau ou belle? En train de tout ça, ça risque de t'atteindre. Mais quand tu seras en action, ça ne t'atteindra pas. Maintenant, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, je veux voir la guérison des malades dans ce lieu. C'est ma mission. Le Seigneur n'arrête pas de me dire ça depuis un moment. Il dit, je veux maintenant que tu opères un miracle. Je suis allé aux États-Unis, le premier miracle qui s'est opéré à ma première réunion, une femme qui était très forte, grosse, qui avait une béquille, qui était malade, qui n'arrivait pas à marcher. Pendant toute la réunion, elle était assise. Je m'approche d'elle. Je lui dis, lève-toi, elle s'élève. Je prends sa béquille. Je dis, maintenant tu marches dans la salle. Elle marche sans béquille. Elle était tellement forte, grosse. L'esprit me dit, dis-lui qu'elle va commencer à maigrir. Je lui dis, et la femme commence à rendre témoignage dans tous ses médecins un peu partout, dans tous les États-Unis, là où elle va. Elle perd du poids au fur et à mesure. La femme est en train de mincir, elle est en train de changer sa garde-robe. Son témoignage est vivant. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu ramènes un paralytique ici, il s'en va guéri. Est-ce que demain tu as besoin d'aller prêcher quoi que ce soit? Les gens savent que Jésus est avec toi. Nous voulons voir des miracles dans ce tabernacle de miracles. J'ai envie de vous dire, ramassez tous les malades et amenez-les pour qu'ils reçoivent la guérison. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Bien-aimé, quand on dit que le Seigneur s'est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas parce que Dieu est assis dans un fauteuil, il a une main droite quelque part et puis Jésus est assis à sa droite. Non, Dieu est esprit. Quand on dit que Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus est remonté au ciel, mais pour s'asseoir dans toute sa gloire. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce n'était plus le Jésus qui était sur la terre, mais c'était le Jésus qui pouvait être Dieu, homme dans le ciel. Amen. Le verset 20 dit, et il s'en allait prêcher. Écoutez bien. Quand Jésus a fini de leur donner ses recommandations, la Bible ne dit pas qu'ils sont restés toujours incrédules. Je prie que l'incrédulité sorte dans mon cœur, dans le cœur de tout un chacun aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils sont allés. Ils s'en allaient prêcher. Ils sont allés dire, oh, Jésus est ressuscité. Et la Bible va dire, le Seigneur alors travaillait avec eux. Ça veut dire que les disciples, en allant annoncer, n'ont pas travaillé tout seuls. Mais le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur faisait quoi? Il confirmait la parole qui sortait de leur bouche par les miracles qui accompagnaient ces paroles. C'est ça que nous voulons maintenant. Aller prêcher l'évangile et voir les miracles accompagner nos paroles. Bien-aimés, sortons de... Les gens sont en train de confondre. Aujourd'hui, les gens croient que c'est une communauté. Il y a des gens qui viennent, ils vont s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, n'est pas de bonne humeur. Tu as un message que tu as prêché, qui n'est pas peut-être le message que lui, il a envie d'entendre parce que son humeur n'est pas bien. Ça devient des trucs. On est en train d'être fatigué avec ce regroupement de chrétiens qui n'avancent pas. Il y a des âmes à sauver. Si chacun de nous se lève pour aller sauver une âme, nous n'aurons même plus le temps de nous ennuyer entre nous. Parce que chaque fois, nous allons voir des miracles. Chaque fois, nous allons voir des prodiges. Que ce matin, ce message soit l'ordre dans ta vie. Que ce matin, ce message remplisse ton esprit. En sortant d'ici, demande à Dieu et demande à toi-même. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire pour accomplir cette parole qui est celle de Jésus, aller sauver les âmes. Écoutez-moi bien. Le Seigneur n'a pas dit aller chercher des membres d'église. Il n'a pas dit aller chercher des gens pour remplir vos églises. Donc toutes les stratégies que nous allons avoir pour faire venir les gens dans notre église n'est pas ce que Dieu nous demande. La Bible dit que c'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'église des nouvelles membres. C'est-à-dire qu'on est là, si 10 personnes doivent venir demain matin, ils vont venir. Si 30 personnes doivent venir. Mais le Seigneur dit, vous simplement, allez-y annoncer. Allez-y leur dire que Jésus est ressuscité. Oh, je me rappelle que je passais tout mon temps à faire des portes à portes, à rentrer chez les gens, à aller parler de Jésus. Et bien aimé, j'ai vu des miracles. Des fois, tu vas annoncer l'évangile chez quelqu'un, tu tapes la porte, tu rentres. Oh, bonjour monsieur, oui, tu commences à parler. On te dit, ah, vraiment, est-ce que vous pouvez prier pour notre soeur qui est là? Elle est malade. Tu dis, mais il n'y a pas de problème. Tu as fini de parler de Jésus, tu imposes la main à la personne, tu pries, la personne se lève et boit de l'eau, commence à manger. Le dimanche matin, tu ne leur demandes pas de venir à l'église, ils sont pressés d'être à l'église. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a tous les blocages dans sa vie, tu rentres chez lui, tu lui annonces Jésus et tu pries pour lui, tu t'en vas. Dans la semaine, un miracle se passe. Le dimanche, tu ne vas pas le chercher pour venir à l'église. Il vient à l'église. Amen. Allons-y annoncer Jésus-Christ. C'est en allant annoncer Jésus-Christ que nous verrons les miracles se produire. C'est là que nous allons découvrir les dons que nous avons. Je vais même dire à quelqu'un, s'il y a une maladie qui te court après, qui te fatigue, c'est quand tu iras prier pour d'autres personnes que tu sauras que tu as le pouvoir de guérir les malades et tu as le pouvoir toi-même sur la maladie. Ça, c'est quelque chose que je dis comme ça. Parce que si tu ne sors pas pour aller voir les miracles de Dieu, tu es là, tu crois qu'il y a quelque chose qui est là qui te domine, alors que tu as le pouvoir sur cette chose. Et quand tu iras avec d'autres personnes pour dire au nom de Jésus, sois guéri, la personne est guérie. Tu as guéri une personne, tu as guéri deux personnes, tu pourras te dire, mais au fait, j'ai guéri une personne, j'ai guéri deux personnes au nom de Jésus, mais moi-même là, pourquoi cette chose-là veut me fatiguer? J'ai le pouvoir sur cette chose. Et c'est fini, tu ne te verras plus jamais malade. Parce que tu es allé annoncer que Jésus est Seigneur et que Jésus s'est glorifié par des miracles. Que cette parole ce matin change notre manière de voir l'évangile. Que partout où nous mettrons les pieds, nous annonçons Jésus-Christ de Nazareth. Que l'incrédulité et le doute qui fait que nous avons peur de parler de Jésus parce qu'on a l'impression que les gens vont nous foutre des Juifs. Les gens vont nous chasser de chez eux, c'est pas grave, les disciples ont été lapidés. Ils ont été hués, mais Jésus a été toujours glorifié. Amen. Le Seigneur veut des nouvelles âmes dans cette église. Le Seigneur veut que par ton témoignage, il y ait des nouvelles âmes. Le Seigneur est en train de te dire ce matin, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas ceux qui m'ont accepté déjà, qui veulent prendre leur parcours pour aller où ils veulent. Il dit, regarde plutôt ceux qui ne m'ont pas encore accepté et va leur parler de moi. Parce que ceux-là, je les ai destinés à venir te rejoindre pour que tu les annonces comment marcher avec moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions pour le message. Père, ta parole est la vérité. Ce matin, tu nous annonces que nous devons aller propager ta parole pour voir les miracles s'opérer. Père, donne-nous la force, donne-nous le courage et retiens-nous l'incrédulité. Que ta force, ta puissance et ta gloire nous enivrent. Que tout ce qui est tiédeur, tout ce qui est mort spirituel, tout ce qui, Seigneur, nous empêche d'aller parler de toi, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons aller voir des miracles dans les vies. Rajoute les âmes à cette église. Rajoute un peuple que toi-même t'as choisi à cette église. Forme, Seigneur, tes soldats que nous sommes et amène-nous. Nous sommes prêts à obéir à ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.